Chapitre 12. Agnès reçoit une visite inattendue et une commission importante. Elle reçoit aussi une lettre de Chetelham et une de sa tante Barnabée. Agnès fut tirée de cette triste rêverie par un double coup frappé à la porte de la rue. « Serait-ce possible ? » dit-elle en se levant avec précipitation. « Aurait-elle dit vrai et serait-elle délivrée ?» Elle entendit ouvrir la porte. Elle écouta, pensant entendre la voix de Mistress Barnabée, car lorsque cette dame était proche, inévitablement, sa voix montait l'escalier avant elle. Ce fut en vain, et la pauvre fille revint s'étendre sur le canapé, cherchant à ressaisir le fil interrompu de ses pensées. Mais il était dit qu'elle n'y parviendrait pas, au moins pour l'instant, car la servante, ouvrant la porte du salon toute grande, annonça « C'est un monsieur !» Comme nous l'avons dit, Agnès était assise dans l'obscurité. Ce fut donc très judicieusement que la bonne plaça sur la table sa longue chandelle, installée dans son réceptacle de fer blanc, en disant, tout en avançant un siège pour le monsieur, « Je vais apporter de la lumière dans une minute, mademoiselle !» Et elle disparut. Agnès levait les yeux en même temps que le visiteur approchait. Et quand même la lumière eût été encore plus faible, il ne lui eût été pas difficile de reconnaître le colonel Hubert debout devant elle. Il la salua avec le plus profond respect, et quoiqu'il eût tendu la main comme pour un bonjour amical, quand il prit celle de la jeune fille, ce fut de l'air d'un courtisan qui offre ses hommages à sa princesse souveraine. Agnès se leva, reçut cette main qu'il lui tendait, leva les yeux pour le regarder, mais resta muette, soit de surprise, soit de joie. Elle était pâle, son visage portait l'empreinte de larmes récentes, encore parfaitement visibles. Elle tremblait de la tête aux pieds, et le colonel effrayé, comme tout homme brave, quand il voit une femme qui succombe à la faiblesse de son sexe, la replaça sur le canapé, étant lui-même presque aussi incapable de parler qu'elle. « N'ayez pas l'air fâché de me voir, bien chère Miss Willoughby, » dit-il. Autrement, vous me feriez repentir de m'être hasardé à venir vous trouver. Je ne l'aurais jamais osé si vos vrais, vos sincères amis, ma tante et ma sœur, ne m'y avaient autorisé. Oh, qu'elles sont bonnes ! S'écria la pauvre Agnès en éclatant en larmes vraiment salutaires. Ne me croyez pas ingrate, colonel Hubert, si je ne puis dire, si je ne puis parler. Est-ce bien vrai ? « Venez-vous de la part de Lady Elizabeth ?»« Voici mes lettres de crédit, » reprit-il en souriant et en lui présentant une lettre. « Nous avons appris que votre folle de tante, pardonnez-moi Miss Willoughby, mais seule la sincérité la plus franche peut excuser la démarche que je fais en ce moment. Nous avons appris que Mistress Barnabée, ayant quitté soudainement Cheltenham, hélas, la raison ostensible qu'elle donnait à ce départ était déjà assez déplorable, avait laissé une quantité de dettes et que ses créanciers, alarmés de ne pas la voir revenir, prenaient d'actives mesures pour s'assurer de sa personne. Serait-ce vrai ? Votre tante aurait-elle été arrêtée ? Oui, répondit faiblement Agnès. Grand Dieu, vous êtes seule alors, entièrement seule ici ?
« Je suis entièrement seule !»
fut la réponse presque absolument couverte par le sanglot qui l'accompagnait. « Oh, chère Agnès !» s'écria le colonel Hubert, emporté par une émotion qu'il ne pouvait plus maîtriser. « Je ne puis vous voir ainsi et retenir plus longtemps le secret caché dans mon cœur, presque depuis la première heure où je vous ai vue. Je vous aime, Agnès, plus que tout au monde !» « Consentez à devenir ma femme et vous n'aurez plus à craindre ni danger ni abandon. » Quel moment pour entendre un pareil aveu! La vie humaine offre rarement l'opposition d'un bonheur extrême à un malheur extrême. Mais qu'il était terrible en cet instant le contraste que présentait la position actuelle d'Agnès avec la proposition que venait de lui faire l'homme qu'elle idolâtrait. Toutefois, n'en déplaise à l'arche Foucault, il y a des natures capables de s'oublier elles-mêmes, et après avoir joui un instant d'un bonheur triomphant qui lui gonfla le cœur au point de lui enlever la parole, la pauvre enfant poussa un long, un profond soupir, comme si, après avoir entrevu la lueur passagère d'un paradis terrestre, elle retombait aux réalités de la vie, Et lentement, mais nettement, elle dit
« Non, je ne serai jamais votre femme. Jamais, de mon propre gré, le colonel Hubert ne s'unira au malheur. »
Si ceci avait été répondu à un homme jeune, il est plus que probable qu'il n'y eût pas cru voir la pensée calculée de ruiner ses espérances. Mais cette réponse tomba comme une douche de glace sur le cœur du brave soldat dont les lèvres venaient de formuler la première demande en mariage qu'il eût articulée de sa vie. L'âge d'Agnès, le sien, se dressèrent devant lui quand elle prononça ce terrible nom « Je ne serai jamais ». Lui qui était la justice en personne, il fut injuste pour la première fois, et ce fut envers Agnès. Pas un instant, il ne lui fit l'honneur de supposer la noble lutte qui brisait son jeune cœur, et c'est en toute sincérité qu'il lui répondit « Pardonnez-moi, mademoiselle Willoughby, si j'étais plus jeune, vous n'auriez pas cru voir dans l'offre de ma main, de mon cœur, de ma vie, l'expression d'un sentiment de pitié, le désir de préserver d'un chagrin immérité une innocence pleine de jeunesse. Est-ce donc sous cet aspect que mon amour devait vous apparaître? Eh bien, qu'il en soit donc ainsi. Du moins, il ne vous coûtera jamais une heure de souffrance. » Il resta silencieux, en proie à un combat intérieur, contre des sentiments dont la violence attestait le degré de faiblesse où en était venu cet homme si courageux. Mais même dans ces conditions, ajouta-t-il, faisant un effort violent pour parler avec fermeté, même dans ces conditions, que je ne sois pas venu vers vous en vain. Écoutez-moi comme vous écouteriez un ami, un père. Pauvre Agnès, c'était une rude épreuve. Pour sauver celui qu'elle adorait d'un mariage qui, aux yeux de tous, eût été une honte, elle eût fait le sacrifice d'elle-même avec le courage triomphant et fier d'un martyr. Mais lui laisser croire qu'elle était trop jeune pour pouvoir l'aimer, laisser ce cœur chaud et généreux se replier sur lui-même dans la conviction qu'elle ne le payait pas de retour, elle, qui serait morte uniquement pour pouvoir acquérir le droit de n'aimer que lui, c'était trop cruel et les mots « Hubert, mon bien-aimé !» était sur ses lèvres. Mais elle n'eut pas la force de les articuler. Un moment encore, et la pauvre fille allait peut-être laisser son cœur innocent s'ouvrir devant son ami, quand le colonel, raffermissant sa voix, reprit « Au nom de Lady Elizabeth Norris, laissez-moi vous supplier, Miss Willoughby, de ne pas rester dans une situation qui donne tant de prise à la critique. » Ma tante et ma sœur ressentent toutes deux une anxiété douloureuse à votre égard, et la lettre que j'ai apportée vous supplie ardemment de venir tout de suite vous installer chez ma tante. Que la crainte de ma présence ne vous empêche point d'accepter, je vais passer sur le continent où j'irai probablement rejoindre mon ami Frédéric à Paris. Il rendait une grande justice à vos charmes, Miss Willoughby, sans moi peut-être. Ah, pardonnez-moi, je ne vous importunerai pas plus longtemps. Pardonnez, pardonnez tout le mal que je vous ai fait. Vous ne saurez peut-être jamais toute son étendue. Avant de vous avoir connu, je ne me doutais pas, je ne m'en serais peut-être jamais douté sans cela, de la faiblesse de mon caractère, j'allais dire de son indignité. Et comme complément à ce haïssable portrait de moi-même qu'il va me falloir contempler désormais, ajouta-t-il avec amertume en se levant pour prendre congé, j'ai été assez fat pour m'imaginer. Ah, en vérité, je mépriserais un homme ayant la moitié de mon âge qui agirait de la sorte. Répondez à la lettre de ma tante, mademoiselle Willoughby. Répondez-lui comme si son méprisable neveu n'existait pas. Là où il pourrait entraver votre fortune ou troubler votre tranquillité, en effet, il n'existe plus. En entendant ces paroles si dures, si remplies de colère, Agnès le regardait comme si son cœur allait éclater, quand, à la fin, le colonel Hubert, surmontant le sentiment de ses propres souffrances, se rassit et, avec douceur, parla des convenances qui exigeaient qu'elle quittât Londres immédiatement. Agnès répondit doucement « Je profiterai de la grande bonté de ces dames, colonel, si le refus de la vieille tante du Devonshire, à laquelle j'ai écrit, me force à devenir une charge pour leur bienveillance. » Comptez-vous donc attendre ici cette décision, mademoiselle Willoughby ?
Je l'ai promis, reprit Agnès, et comme c'est jeudi, la limite la plus éloignée pour recevoir une réponse, je ne voudrais pas, en m'en allant, m'exposer à l'offenser en ne suivant pas son avis dans le cas où elle m'en donnerait un. » En terminant ce petit discours, Agnès avait fixé ses yeux sur ceux du colonel Hubert, et dans leur expression, il passa quelque chose qui ébranla pour un instant la cruelle conviction qu'il s'était faite de l'indifférence de la jeune fille à son égard. Il se leva de nouveau, fit un pas vers elle, et dit avec une émotion si violente qu'elle changeait entièrement le son de sa voix. « Agnès, Miss Willoughby, une seule question, je vous en supplie. Si ma tante elle-même plaidait pour moi, voudriez-vous, pourriez-vous être ma femme ?» Agnès, également terrifiée par la crainte d'en dire trop ou pas assez, répondit en hésitant. « Si une chose pareille pouvait jamais se réaliser, colonel Hubert, comment pourrais-je ne pas croire que je suis pour votre tante et pour votre sœur un objet de haine et de mépris ?»« Vous pourriez penser, me permettrez-vous d'espérer qu'il n'est pas impossible que vous arriviez à m'aimer, moi, Agnès ?»« Non, non, ne me répondez pas, ne vous engagez pas par une seule parole. »« Eh bien donc, attendez ici, mais ne quittez pas la maison. » Attendez jusqu'à ce que... Cependant, hélas, je n'ose rien promettre. Mais vous ne quitterez pas cette maison, Miss Willoughby, pas plus avec une tante qu'avec l'autre, sans me faire savoir, sans faire savoir à ma famille où l'on peut vous trouver. Je vous le promets, dit Agnès, sentant renaître en elle l'espérance que, dussent-ils être séparés pour toujours, il n'emporterait pas la pensée qu'il était trop vieux pour être aimé d'elle, car l'idée de s'en remettre à Lady Elizabeth, et ces quelques mots de doute qu'il avait prononcés lui-même, ne faisaient que trop présager quelle serait la fin de tout ceci. « Je vous promets, répéta-t-elle, que cette lettre ne demeurera point sans réponse. Et vous ne sortirez pas de cet appartement tant que vous serez seule, reprit-il encore une fois en lui prenant la main. Non, si vous croyez que cela vaille mieux. Répondit-elle en lui donnant franchement la main, avec un sourire qui aurait dû délivrer son cœur du terrible épouvantail que son âge seul dressait entre Agnès et lui. Peut-être pour le moment en fut-il ainsi, car il se hasarda à presser cette main sur ses lèvres, en murmurant avec ferveur « Dieu vous garde, que sa bénédiction soit avec vous !» Et il disparut. Et Agnès resta là, assise, à rêver de nouveau. Mais quel changement s'était opéré dans la nature de ses rêveries? Qu'était devenu son abjecte misère? Qu'était devenu ce sentiment de désespoir et d'abandon qui lui avait fait redouter de regarder autour d'elle dans la crainte de constater sa terrible solitude? Elle sonna, on lui apporta de la lumière, on servit son thé, et quoiqu'elle se sentît le cœur encore trop plein, trop palpitant, pour pouvoir ni boire le thé ni manger le pain beurré, qui eut cependant remplacé avantageusement le dîner auquel elle n'avait pas goûté, tout avait repris un aspect si calme, si satisfaisant, tout dansait devant elle, si bien revêtu d'une teinte rose, qu'à la fin, renonçant à essayer de s'asseoir gravement à la table du thé, elle se leva, joignit ses mains, en levant vers le ciel un regard plein d'une extase de reconnaissance, et s'écria à haute voix « Il m'aime ! Il m'aime ! Ô heureuse Agnès !» « Auriez-vous appelé, mademoiselle ?» dit la servante qui, ayant entendu parler en passant sur le carré, était entrée. Agnès se mit à rire en la regardant. « Non, Suzanne, dit-elle, je crois que je m'entretenais toute seule. »« Tiens, c'est drôle, dit la fille, mais aussi c'est une pitié qu'une jeune personne comme vous n'ait personne à qui parler. Puis-je emporter tout cela, mademoiselle ?» Laissée encore une fois à elle-même, Agnès se mit à lire la lettre qui était restée jusque-là sur la table sans qu'elle y eût touché. Elle rougissait, en l'ouvrant, de n'avoir pas encore songé à la lire. La première page était de Lady Elizabeth. Il n'y était question que de l'ordre qu'elle donnait à sa manière péremptoire ordinaire, quoique mélangée de beaucoup de bonté. Elle voulait qu'Agnès quittât Londres dans le plus bref délai et considérât sa maison comme la sienne, tant qu'elle n'aurait pas trouvé une situation convenable. Le reste de la lettre était de Lady Stephenson et exprimait l'anxiété la plus affectueuse à l'égard du bonheur d'Agnès.
mais elle aussi parlait de l'espérance de lui trouver quelque situation qui pût lui donner l'indépendance. Il était donc suffisamment évident que ni l'une ni l'autre n'avaient jamais eu la pensée que cette indépendance pût lui venir du colonel Hubert.
« Il serait absurde de s'imaginer qu'elle puisse jamais y consentir, » pensa Agnès. « Mais du moins, je ne serai jamais plus aussi misérable que je l'ai été, et il y a là assez de bonheur pour remplir toute une existence, et puisque tout le monde s'accorde à dire qu'on ne peut être heureux dans cette vie, eh bien, il me suffira parfaitement qu'Hubert m'aime. Oh, Hubert, noble cœur, comment ai-je osé fonder mes rêves sur toi ? Présomptueuse fille ! Et pourtant, il m'aime !»
Et munie de ce baume, qui agissait comme un doux calmant sur ses esprits surexcités, elle dormit toute la nuit et rêva de Hubert. Le jour suivant, le courrier de 4 heures lui apporta cette lettre de sa tante Barnabée.
« Chère Agnès, la brutalité de ces gens de Châtelham dépasse vraiment tout ce qu'on peut s'imaginer. Monsieur Creighton, mon agent de change, celui de mon pauvre père avant d'être le mien, est venu me trouver hier soir. Je lui expliquai complètement, sans faire l'ombre d'une réserve, l'embarras insensé dans lequel je suis. Embarras qui n'aurait jamais existé si je n'étais tombé entre les mains de canailles. Il a donc entrepris de se procurer la somme nécessaire, de façon que je fusse libéré ce matin à 11 heures. Il avait réussi, le brave homme, et avec la plus grande ponctualité. Ce misérable Simon s'était payé, j'avais mon reçu et mon élargissement, quand, au moment où j'allais monter dans une voiture pour me sauver de cet haïssable endroit, je vois arriver identiquement les deux mêmes personnages qui nous ont insultés dans Half Moon Street et qui m'arrêtent de nouveau pour le compte de Wright. Quelle absurdité ! Comme si je ne pouvais pas payer tous ces gens-là aussi facilement que j'achète un pot de porteur. Mais ils n'entendent pas plus la raison qu'un porc dans une étable. Donc je suis ici enfermé pour la seconde fois, jusqu'à ce que le bon vieux Creighton puisse venir pour recommencer la même fastidieuse besogne. Vous pouvez bien comprendre à quel point je suis triste. Et ce qu'il y a encore de plus contrariant, c'est que j'avais tout à fait renoncé à vous faire venir auprès de moi, puisque Creighton me disait que je serais libre à midi aujourd'hui. Donc, Agnès, je désire qu'aussitôt cette lettre reçue, vous vous mettiez immédiatement en route pour venir me voir. Vous pouvez me faire une visite, quoique je ne puisse pas vous garder auprès de moi sans une autorisation spéciale. Songez bien à ne pas vous perdre, c'est on ne peut plus facile, si vous voulez bien suivre les indications que je vais vous donner. Prenez le même chemin que lorsque nous allions à l'église et continuez jusqu'à ce que vous atteigniez le théâtre de Haymarket. Vous le reconnaîtrez au nom qui est écrit dessus. Là, quand vous aurez été tout au bout, tournez court à votre gauche et demandez le Strand. Quand vous serez dans le Strand, ce qui aura été l'affaire d'une minute, allez tout droit devant vous, toujours, 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 jusqu'à ce que vous arriviez au bas d'une côte un peu raide. Là, vous vous arrêterez et demanderez à quelqu'un de vous montrer le chemin pour aller à la prison. Une fois arrivé là, un guichetier, n'importe lequel, vous indiquera ma chambre. Quelle douceur ce sera pour moi de vous voir dans un endroit pareil. Et écoutez, Agnès, le long de votre chemin, vous achèterez une demi-douzaine de gâteaux au fromage, une demi-douzaine de gâteaux à la crème et un petit bocal de cerises à l'eau-de-vie d'environ 4 ou 5 shillings. Et puis, quelque chose de charmant, je pourrai vous garder jusqu'à la nuit. C'est le moment où l'on ferme, comme ils disent. Alors, vous pourrez très facilement retrouver votre chemin à la lumière du gaz, ce qui est 10 fois plus beau à voir que de jour, et vous vous en irez ainsi tout le long des rues, d'un bout de la ville à l'autre. Comprenez-vous que ce sale coquin de Morrison n'est pas venu me voir une fois, après tout ce qui s'est passé et tout le vin qu'il m'a bu, est-ce assez mesquin ? Il y a ici un homme qui a l'air bien comme il faut. Je le rencontre dans le corridor chaque fois que je vais à ma chambre. Il me salue toutes les fois, mais nous ne nous sommes pas parlé encore. Apportez 5 sovereigns avec vous et surtout partez aussitôt cette lettre reçue. Votre tante affectionnée, Martha Barnabée. Il est inutile de dire de quel genre fut l'effet produit par le ton de cette lettre sur un esprit doué d'autant de délicatesse et de fraîcheur que les clochettes du Muguet,
et qui plus est rempli de l'image du noble Hubert jusqu'à en déborder. Cependant, d'autres sentiments se mélangeaient à ce profond dégoût. Elle plaignait sa tante Barnabé, et si elle avait pu, sans blesser les convenances, apporter quelque adoucissement à sa position, elle n'y aurait pas manqué. Mais ce qu'elle lui demandait dépassait ses forces. D'ailleurs, n'avait-elle pas promis au colonel Hubert de ne pas quitter la maison? Et combien était doux le souvenir de cette recommandation! Il ne s'agissait donc point d'obéir à l'injonction de Mistress Barnabé, mais il fallait lui écrire. Agnès s'assit et s'efforça d'adoucir son refus en alléguant la terreur que lui inspiraient les rues, n'importe à quelle heure, ajoutant qu'elle supposait, d'après le récit de sa tante, qu'elle se trouverait réunie le lendemain dans le logement de Half Moon Street. Mais le lendemain, le surlendemain passèrent et Mistress Barnabé ne revenait point. Par le fait, elle avait reçu assignation sur assignation, et dans l'espoir toujours renouvelé d'éviter celle qu'elle n'avait pas encore reçue, elle ne s'occupait jamais que de la présente, système qui avait fait durer son emprisonnement la semaine tout entière. Mistress Barnabé ressentit la plus vive indignation au refus d'Agnès de venir la voir. Elle lui répondit, sur le ton de la plus vive véhémence, qu'elle avait résolu de ne plus vivre avec elle désormais, et sa lettre se terminait ainsi. « Si vous ne voulez pas que je vous fasse tourner tête et talons dans la rue, aussitôt mon retour, cherchez vite une place, soit de bonne d'enfant, soit d'aide de cuisine, à votre choix. Seulement, arrangez-vous pour que je ne vous retrouve plus. Misérable ingrate! Qu'est-ce que l'ingratitude de Morrison auprès de la vôtre? Pendant près de 7 mois, vous avez été nourri à mes frais, logé à mes frais, vous avez voyagé à mes frais, vous avez été habillé à mes frais, et qu'obtiens-je en retour? Je suis en prison pour des dettes qui vous concernent, certes, tout autant que moi-même. Et vous refusez de m'y venir voir. Que je n'entende plus jamais prononcer votre nom et ne vous avisez jamais plus de tourner vos pensées ni vos espérances vers votre tante, offensée pour toute sa vie, Martha Barnabé. » Si peu désireuse que fût Agnès de continuer à rester sous la protection de Mistress Barnabé, ce congé formel ne laissait pas que de lui paraître fort embarrassant. Elle venait de décliner si catégoriquement l'invitation de Lady Elizabeth que, tant que sa tante Compton ne l'aurait pas décidément repoussée, elle ne pouvait songer à y revenir. Elle était littéralement sans un sou. Elle avait la clé que sa tante lui avait confiée, mais elle ne voulait pas toucher à l'argent. Elle n'avait d'autre moyen, tant qu'elle n'aurait pas reçu de réponse de Miss Compton, si elle voulait éviter de subir à la lettre la menace de sa tante Barnabé, que de ne rien changer à sa manière d'être. Affrontant donc avec courage la rencontre qui pouvait avoir lieu si sa tante était rendue à la liberté avant qu'elle le fût elle-même, elle se résigna à passer aussi patiemment que possible l'intervalle de temps si cruel qu'elle devait subir dans l'incertitude.